Cabrel pointait du doigt le côté un peu aliénant de nos rythmes de vie, aussi effrénés que conditionnés.
Et tout de suite, on reçoit Yves Assouline pour la course incessante des êtres humains.
Ligne droite. Très haut, très haut, il y a
une place pour nos idées. Vue de haut.
Yves Assouline, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Éléonore.
Vous êtes l'auteur de La course incessante des êtres humains qui est paru aux éditions Attract en 2021. Mmh. Et ça fait donc ça fait 15 ans ou un peu plus que vous exercez une activité de conseil en recrutement. Et vous avez cette dimension philosophique également qu'on découvre dans ce livre avec vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre ?
En fait, le titre en lui-même, il m'est venu de Schopenhauer. Parce que Schopenhauer, les hommes sont comme des horloges. Une fois qu'ils sont mis en marche, qu'ils démarrent, ils n'arrêtent pas de marcher et sans savoir pourquoi. Mmh. Et ça m'avait marqué cette citation parce que ça veut dire que on a besoin de bouger. D'ailleurs, c'est ce que dit Schopenhauer. Il dit l'homme a besoin d'être actif et finalement, on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, depuis longtemps, je me suis toujours posé la question du sens de vie, de savoir pourquoi est-ce qu'on est agi, qu'est-ce qui nous motive à faire telle ou telle chose. Déjà, quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup de choses là-dessus, même si j'étais intéressé par la science, j'ai une formation d'ingénieur, mais j'étais toujours intéressé par savoir qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on pense de telle manière, pourquoi les personnalités des gens sont comme ci et comme ça, pourquoi on a des émotions et tout ce qui touche aux relations humaines.
D'accord.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai travaillé dans des métiers de management, etc., pendant des années, mais maintenant je fais du recrutement justement parce que ça, c'est très proche des relations humaines. Et à l'époque, j'avais pris beaucoup de petites notes comme ça. Je prenais beaucoup de notes sur mes lectures, etc. Et petit à petit, l'idée m'est venue de faire un livre justement pour synthétiser ces idées.
Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important d'identifier les motivations qui animent les gens?
Ben, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, dans la vie.
Mmh.
Vous êtes sur Terre, vous vivez, et puis vous bougez, vous avez plein de choses qui vous motivent. Vous devez aller vous lever le matin pour aller travailler, vous avez des peines, des chagrins, et des fois, vous maîtrisez pas tout ça. Vous vous demandez pourquoi. Est-ce que je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je fais cela? Et moi, je crois que c'est avant toute chose, je trouve même que ça devrait être enseigné à l'école presque, le sens de vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive? Le pourquoi? Alors dans le livre, j'ai voulu étudier le pourquoi en partant justement je suis parti de l'origine des espèces pour comprendre, de manière simple, à partir de la biologie, qu'est-ce qui nous motive. Et après, comment il y a des motivations très simples avec les animaux simples et les motivations sont devenues plus complexes avec l'évolution du cerveau, avec l'homme en particulier qui a des motivations que les animaux n'ont pas. Et en fait, j'ai voulu comprendre ça, le pourquoi finalement, et en même temps aussi donner des réponses. Et d'ailleurs, le livre est très clairement scindé comme ça. Il y a une partie de pourquoi et une partie de comment. Comment, en fait, eh ben, mieux satisfaire ses motivations, mieux arriver à gérer nos poisons, ce que j'appelle des poisons, justement, dans le livre. C'est tout ce qui nous empêche justement de satisfaire nos motivations. Alors, on m'a souvent dit le mot effort, poison. Moi, j'ai choisi ce mot parce que si vous voulez, un poison, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre. C'est ça, quelque chose qui vous bloque dans votre vie, puisque soit vous êtes très malade, soit vous mourrez.
Par exemple, un type de poison typique.
Un poison, le poison qui fait le plus mal, par exemple, c'est la perte d'un proche, d'un enfant. Ça peut être aussi une maladie grave, un accident, un licenciement, une rupture sentimentale, etc. Ça, c'est les poisons les plus violents. Mais vous avez aussi les poisons de tous les jours qui sont plus faibles, comme par exemple une panne de voiture, une facture, etc. Et tout ça, ça nous empêche, en fait. Pourquoi j'appelle ça des poisons? Parce que ça nous empêche, quand vous avez un poison violent, ça peut vous empêcher provisoirement ou durablement de satisfaire vos motivations. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent être abattus pendant un mois, d'autres pendant 6 mois, d'autres pendant toute leur vie, en fait. Et donc, c'est vraiment des poisons parce que ça vous empêche de vous réaliser. Donc, en fait, dans les conseils que je donne dans la deuxième partie du livre, c'est deux choses. C'est d'abord déterminer ses motivations, mais aussi savoir comment contrer ces poisons, au moins les atténuer, parce qu'on ne peut pas toujours les éliminer, même s'ils restent en arrière-plan.
Le sous-titre de votre livre, c'est « Balloter chaque jour entre leurs motivations et leurs poisons », vous venez d'en parler. Est-ce que finalement, cette course incessante, elle ne nous a pas rendus malades? Est-ce qu'on ne se rend pas malades nous-mêmes avec ces poisons?
Parce que si vous voulez, quand ces poisons, ils existent dans la vie justement. Dans les conseils que je donne justement, je dis attention, il faut accepter que la vie, elle est faite de poisons et de plaisir et de malheur. Donc il faut l'accepter, il faut se dire, le jour où on n'en a plus, c'est qu'on ne vit plus. Vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Donc il faut savoir l'accepter. Et quand vous dites, nous-mêmes on peut s'empoisonner, c'est vrai, parce que c'est ce que j'appelle la focalisation. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs dans les conseils que je donne, je dis, il faut lutter contre ça. C'est que quand vous avez quelque chose qui vous empoisonne, si vous y pensez trop, ça revient dans votre tête, etc., vous vous empoisonnez vous-même. C'est-à-dire finalement, ça vous obnubile et vous pouvez et vous faites pas autre chose et vous avez même pas une en plus votre pensée elle est vraiment elle est pas objective. Voilà, donc effectivement c'est vous avez tout à fait raison, on peut s'empoisonner soi-même avec ces poisons existants.
Et pour parler des motivations, finalement, qu'est-ce qui motive l'homme? La première chose qui motive l'homme, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être la survie sa propre survie, la survie de l'espèce? Est-ce que ça va être le développement personnel de ses facultés, de son intelligence, de ses relations sociales?
Alors dans le livre justement, je parle beaucoup des motivations dans le sens en partant de l'évolution des espèces et je décris l'ensemble des motivations. Il y en a plus de 24. Non, il n'y en a pas plus de 24, il y en a 24, il y en a plus de 20. J'en ai dénombré en tout cas ce nombre-là et je vais vous citer, on va peut-être pas tous les citer, on pourra y revenir après, mais les au moins les principales. Effectivement, les premières motivations qui sont apparues, c'est ce que j'appelle les motivations archaïques, c'est ce qu'on trouve avec les animaux les plus simples, c'est les motivations qu'on connaît tous qui sont la conservation, c'est-à-dire que le fait de se nourrir, de manger, de boire, de dormir, de soigner, c'est la première motivation. Ensuite, vous avez une deuxième motivation archaïque qui est la motivation de sécurité, le fait de se protéger pour ne pas que vous avez un animal dangereux, de fuir par exemple. La troisième motivation, c'est celle de la reproduction avec la sexualité, et la quatrième motivation, c'est la perpétuation avec s'occuper des enfants, l'instinct maternel. Ce sont les quatre motivations vraiment archaïques fondamentales qu'on retrouve à la base et qui sont finalement, ces motivations, elles sont gérées par des hormones. Toutes elles sont gérées par des hormones. Par exemple, pour le sommeil, c'est la mélatonine. Pour la faim, c'est la leptine. Pour les hormones sexuelles, c'est la testostérone, c'est la progestérone, par exemple. D'accord? Et pour la peur, c'est l'adrénaline, quand vous avez peur. Vous voyez, et tout ça, et ces hormones, on les trouve déjà à l'origine de la vie. Les premiers animaux vivants dont on est issu, qui sont les éponges de mer, elles ont elles-mêmes des hormones, déjà. Vous voyez, les hormones, ce sont des molécules qui transportent dans le sang des molécules chimiques, d'autres molécules chimiques pour satisfaire un besoin. Vous voyez, donc finalement, on est motivé depuis le départ par ces hormones. C'est vraiment les hormones de base.
Ça ressemble un petit peu à l'étage, à la base de la pyramide de Maslow.
Exactement. C'est ce qu'a dit Maslow. Il a dit la première motivation fondamentale. D'ailleurs, je le cite dans le livre. Je parle de Maslow. C'est vraiment ces quatre motivations fondamentales. Et nous-mêmes, les êtres humains, même si on est des êtres évolués, on est régi à la base par ces motivations fondamentales. Et elles sont même à la base de toutes les autres motivations qu'on peut avoir. L'être humain, il a des motivations plus complexes. En particulier, on va continuer justement avec ces motivations. Vous avez ensuite la motivation associative qui est issue des neurones. Le fait qu'il y ait eu des neurones qui sont apparus après avec l'évolution. Les neurones au départ c'est pas forcément d'ailleurs avec le cerveau. Le neurone c'est peut-être le mouvement et après c'est devenu des idées avec les animaux plus évolués avec l'homme. Et le neurone a permis d'apporter une nouvelle motivation qui est la motivation associative. Vous connaissez peut-être justement, je l'explique dans le livre, l'expérience de Pavlov. Je la cite pour nos auditeurs. C'est Pavlov, il a fait cette expérience suivante. Il a donné à manger un chien avec dans une gamelle. Et il a en même temps qu'il lui donnait à manger, le chien quand il voit sa gamelle, bien sûr, il salive. C'est un réflexe naturel. Et en même temps qu'il lui donnait à manger, il a fait sonner une cloche. Et au bout d'un moment, il a arrêté de donner la gamelle, mais il a fait sonner la cloche. Et il s'aperçoit que le chien, il arrive en courant et qu'il salive. Donc ça veut dire que le chien, il a créé une nouvelle motivation qui est le son de la cloche.
Ce qu'on appelle le réflexe pavlovien.
Voilà, c'est le réflexe de Pavlov. Mais ça, si vous voulez, la base de ce réflexe, ce que ça montre, c'est qu'on a, le chien a associé l'idée de sa gamelle au son de la cloche. Donc il a créé une nouvelle motivation. Et nous-mêmes, les êtres humains, on a énormément de motivations comme ça. Par exemple, moi, si je pense à la mer, ça me fait penser au bleu, ça me fait penser aux vagues, ça me fait penser au plaisir du restaurant, etc. Vous voyez, donc j'associe positivement la mer à plein de choses qui sont...
Et justement, toutes ces associations, elles diffèrent entre les hommes. Vous nous parliez tout à l'heure des motivations archaïques, la plupart c'était pour la survie. Qu'est-ce qui fait que ces motivations peuvent différer entre les hommes?
Ça tombe bien, je vais te donner un exemple de la mer. Et imaginez par exemple que vous avez grandi dans une famille de pêcheurs, et dans cette famille, il y a des marins qui sont morts dans un naufrage. Ils ont perdu la vie. Et régulièrement, au fur et à mesure que vous avez grandi, vous avez entendu parler de ces décès au fur et à mesure. Est-ce que vous croyez que vous allez associer la mer à quelque chose d'agréable? Vous allez l'associer à la mort, à la tristesse, au deuil. Finalement, ça vous donnera autant... Autant moi, par exemple, qui associe la mer aux vacances, je serais motivé par faire de la natation parce que je l'associe au plaisir. La nage, c'est pour moi, ça me rappelle le plaisir des vacances. Autant cette personne-là qui a vécu des drames marins, je suis pas certain qu'elle a envie d'aller. Ça lui donnera autant de plaisir d'aller nager. Vous voyez, donc ça explique d'ailleurs le fait qu'on soit tous différents. On a tous un vécu différent, un parcours différent, et c'est ça qui fait qu'on a des personnalités différentes et des motivations différentes.
Et c'est un vécu qui se construit tout au long de la vie, mais qui se construit aussi dès l'enfance avec les familles, l'éducation, c'est ça?
Exactement. L'éducation vous apprend des principes. D'ailleurs, j'ai écrit un livre aussi sur les personnalités. Qui s'appelle Questions de caractère ou mieux connaître son caractère. J'en ai écrit deux d'ailleurs. Et ça parle de ça. Justement, ça montre que justement l'éducation va construire des principes de vie. On a tous des principes qui nous guident en fait. Parce que pourquoi est-ce qu'on a des principes? Parce que l'homme il est pas assez parfait pour dans diverses situations. Il a plusieurs choix de possibilités d'agir, d'action, et il sait pas trop. Et du coup, on a tous des principes qui nous guident un peu dans la décision à prendre. Mmh. Alors ça peut être, c'est pour ça qu'on a tous des décisions différentes d'ailleurs, parce qu'on a des principes différents.
Mmh. Et alors pour aller dans les étages supérieurs de la pyramide, quelles sont les motivations les plus élevées chez l'homme?
Alors dans les motivations principales. Vous avez déjà ce que j'appelle la motivation de considération et d'appartenance. Ce sont deux que je vous donne les plus importantes. Alors, ce sont pas les plus élevées chez l'homme parce qu'on les retrouve aussi chez l'animal. La considération, c'est le fait d'être respecté, de se sentir aimé, de se sentir apprécié, etc. Par exemple, le fait de vouloir avoir un poste de direction, de vouloir être une star, etc. Oui, vous êtes considéré. L'appartenance, elle est très importante aussi. C'est l'une des motivations les plus importantes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par un professeur de Harvard qui s'appelle Robert Waldinger. C'est une étude qui a été menée pendant 70 ans et qui met bien en évidence le besoin d'appartenance des hommes, parce qu'il a montré que les gens qui satisfont plus cette motivation d'appartenance sont plus heureux. C'est une étude vraiment sur très très longtemps. Ils sont passés le relais pendant des années là-bas. Mmh. Et ils ont montré que finalement, ils allaient voir ces personnes-là régulièrement, en leur faisant des sondages, en demandant, et même à leurs descendants au départ, puisqu'ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Et ils sont aperçus que les gens les plus heureux, ce sont ceux qui ont ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, l'appartenance, c'est appartenir à une famille, à une communauté, à des amis. Vous voyez, il y a plein de groupes, il y a plein de façons d'avoir de l'appartenance. Ça peut être un club de sport, ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être les anciens élèves d'une école de commerce ou d'ingénieur.
Tout ce qui est réseau, en fait, finalement.
Tout ce qui est, pas seulement les réseaux, les communautés. Communautés religieuses, ouais. Les clubs, un club d'aviron, un club de sport. C'est un endroit, si vous voulez, où on se sent accepté. l'appartenance, excusez-moi, c'est le fait de se sentir compris, de faire partie, d'avoir les mêmes valeurs. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, c'est un exemple que je vais vous citer comme ça à chaud, parce que j'ai entendu une émission à la télévision sur une femme qui s'appelait d'ailleurs, elle s'appelle Tatiana Mukanire, je crois. C'est une femme qui parle du viol au Congo, des femmes violées au Congo. Et elle disait, elle a écrit un livre et elle a créé une association. Mmh. Et elle disait, et l'animateur lui demandait, comment vous avez pu recueillir le témoignage des autres femmes violées, parce que dans son livre elle en parle, parce que ça ne va pas être évident d'avoir ce témoignage de ces femmes pour en parler. En général, vous savez, il y a une sorte de traumatisme, mais on n'en parle pas. Et elle dit non, j'ai pas eu de problème, parce que moi-même j'ai vécu ça. Et l'animateur lui a demandé, lui a dit, mais Bon, il lui a demandé, ben, vous avez pas eu de problème, mais plus précisément, et elle dit, et elle a rajouté, en fait, on est une même famille. C'est parce qu'on est une même famille. Mmh. Et en fait, ce mot famille, justement, ça montre la motivation. Ces femmes-là, si elles lui ont parlé, c'est parce qu'elles ont senti cette motivation d'appartenance. Là, elles sentaient que c'est cette femme, elles partageaient avec elle des valeurs, elles étaient comprises par elle.
Et qu'elle était en confiance avec elle.
Exactement. Voilà. L'appartenance, c'est vraiment être en confiance avec des personnes, voilà, et pouvoir se libérer et être soi-même. Mmh. Donc c'est pour ça. Et donc, alors, excusez-moi, mais je vous ai, là, c'est les motivations qui sont importantes. Mais effectivement, il y a une motivation plus complexe pour répondre à votre question. Okay. Bah, c'est ce que vous alliez dire.
Là, on est sur les motivations médianes, on va dire, et celles qui sont tout en haut de la pyramide. Quelles sont-elles alors?
Voilà, je parle beaucoup parce que, effectivement, il y en a
mais
beaucoup.
Non, on construit le château pierre après pierre, c'est très bien.
Et la motivation, là, voilà, les motivations supérieures qui sont vraiment propres à l'homme, en tout cas, et certains animaux longs, mais il y en a très peu, c'est des motivations qui font, parce que l'homme, si vous voulez, dans son cerveau, il a la possibilité d'anticiper, de préparer, d'avoir une sorte de mémoire tampon qui lui permet finalement de refuser un plaisir immédiat, contrairement aux animaux. Il va accepter finalement une contrainte provisoire pour un plaisir futur. C'est ce que j'appelle les motivations anticipées pour l'avenir. Il y a peu d'animaux qui ont ça, enfin à part les animaux comme les singes les chiens éventuellement. Certains oiseaux très intelligents l'ont, comme le corbeau par exemple. On a vu que des corbeaux par exemple qui sont capables de jeter, ils veulent ouvrir une noix, ils montent dans le ciel, il la laisse tomber par terre pour qu'elle s'éclate et après il va manger la noix. Ça demande à accepter de pas avoir un plaisir immédiat et ça pas beaucoup d'animaux le font. L'homme lui bien sûr il est capable de faire ça. Et parmi ces motivations justement anticipées qui sont importantes, vous avez un plaisir d'ailleurs qui est souvent d'ailleurs cité par des scientifiques. Spinoza par exemple, il disait que c'était la motivation la plus importante pour lui, c'est la motivation de progression. Le fait de progresser, d'étudier, c'est une motivation de progression. Quand vous étudiez par exemple le piano, ou vous étudiez même une science qui vous plaît, vous avez ce sentiment de progresser et c'est un plaisir. Ça, c'est une motivation très importante. Et vous avez
le perfectionnement aussi, ça en fait partie.
Bien sûr. Tout ce qui vous permet d'atteindre un but. En fait, inconsciemment, vous dites, quand j'aurai ça, je pourrai, par exemple, faire du piano, je pourrai faire des concerts, je vais pouvoir. C'est un plaisir. Le fait de rajouter pierre à pied après pierre, quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui vous donne du plaisir. Schopenhauer d'ailleurs le dit. Hein, il dit, l'homme a énormément de plaisir et s'il construit un panier de ses propres mains, chaque jour le voir progresser son travail, c'est un grand plaisir. Il y a un exemple aussi que j'aimerais citer, si vous voulez, qui est assez instructif et puis qui fait partie de ma pas loin de là où j'habite, dans la région lyonnaise. vous avez peut-être entendu parler du facteur cheval, Ferdinand Cheval.
Oui. Le
palais du facteur cheval. Oui. Le facteur cheval, pour raconter son histoire, c'est un facteur qui faisait à peu près 30 km par jour à pied. Et puis un jour, c'était dans les années 1870, je crois, quelque chose comme ça. Un jour, il tombe sur un caillou bizarre et il le ramasse. Et puis, il l'emmène chez lui et finalement, ça lui donne une idée. Il se dit, tiens, dans mon potager, j'ai envie de construire, avec tous les cailloux que je vais ramasser pendant mes tournées, je vais construire un petit palais, comme ça, pour m'amuser. Et pendant 30 ans, en fait, il a ramassé des cailloux. Il était avec son sac, il ramassait des cailloux. Son palais, il a pris de l'ampleur. Il est devenu, c'est une forme. Alors, c'est un palais issu de son imagination. Mmh. Donc, si vous regardez les images, c'est vraiment spécial. Hein.
C'est un peu bizarroïde.
Ouais, c'est très atypique. Vous avez des colonnades un peu spéciales. Mmh. Il a construit des animaux avec des pieuvres en pierre. Je crois qu'il y a un éléphant, il y a un pélican, des choses comme ça.
C'est tout son univers à lui.
C'est son univers à lui, mais c'est vraiment spécial à voir. Et moi, je suis allé le voir, effectivement. Mmh. C'est vraiment spécial. Et d'ailleurs, c'est classé monument historique maintenant. Et en fait, ça lui a donné... Alors, pourquoi je parle de cet exemple? Parce que c'était un plaisir de progression. Chaque jour, il ramassait ses pierres. Il avait ce plaisir de progresser vers un objectif qui était de dire « Mon palais, chaque jour, il augmente, il devient plus beau, il l'affine, etc. » On a tous ce sentiment quand on fait un projet de progression. Ne serait-ce que construire sa maison, par exemple. C'est pareil, c'est un peu le même principe.
Et justement, là, c'est un plaisir qui a duré plusieurs décennies.
Exactement.
C'était quasiment un projet de vie, finalement. C'est devenu un projet de vie.
Eh ben, vous me permettez de faire une introduction, une transition vers une autre motivation qui est le sens de vie, justement. Parce que une même action peut répondre à plusieurs motivations. Et dans le cas du facteur cheval, effectivement, c'est devenu un projet de vie. Parce qu'au départ, c'était une motivation de progression, mais après, il est devenu connu. Il a beaucoup de gens qui sont venus. Et ça l'a beaucoup valorisé. Et c'est devenu, ça a donné un sens à sa vie aussi au bout d'un moment. Quand vous faites ça pendant 30 ans, c'était un projet de vie. Et le sens de vie, c'est aussi quelque chose qu'on anticipe à long terme, dans l'avenir. Et on a tous besoin d'un sens de vie, enfin, plus ou moins selon les personnes. Et le sens de vie, c'est quelque chose qui va vous pousser finalement et vous aider aussi à supporter les épreuves difficiles. Si vous voulez, je vous donne un exemple aussi de sens de vie qui est une histoire de Charles Péguy, si ça vous intéresse. J'aime bien raconter des histoires parce que je trouve qu'elles illustrent bien les...
Ça permet d'incarner un peu le propos et la théorie.
Voilà, de bien voir en image finalement ce que sont ses motivations. Alors Charles Péguy, il raconte un conte, c'est pas une histoire vraie, mais elle pourrait l'être. Il dit un jour, je me promène, bon, alors c'est toujours dans son imagination hein, bien sûr, mais... Et il dit, je vois un casseur de pierre. Et ce casseur de pierre, il a une masse et il tape avec rage sur les pierres. Et c'est des gestes violents, il a l'air triste. Et Charles Péguy lui demande, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et le monsieur dit, bah, vous voyez bien, je casse des pierres. C'est un métier difficile, c'est pénible, c'est stupide comme métier. J'ai faim, j'ai soif, mais je suis obligé de le faire. Ok. Charles Péguy continue sa marche et il voit plus loin un autre casseur de pierre, le même travail, mais la personne est plus serein, elle a des gestes plus harmonieux, elle a l'air moins rageuse et il lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, écoutez, je casse des pierres, c'est un métier difficile mais il me permet de nourrir ma famille, ma femme et mes enfants. Et puis en même temps, je suis pas tant à plaindre que ça parce que je suis au grand air. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont des métiers plus difficiles que moi et ça me permet de me nourrir. Donc je suis quand même content. Il continue sa route et il voit un troisième monsieur qui est en train de casser des pierres. Et lui, il a un grand sourire sur le visage. Il est très serein et il casse les pierres avec ardeur, avec beaucoup de passion. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit, vous voyez, je casse des pierres, je suis en train de bâtir une cathédrale.
Donc comme ça, on voit qu'une même action, la manière dont elle est envisagée, nous permet d'être plus ou moins heureux, alors qu'au final, c'est exactement la même chose.
Exactement, exactement. C'est l'un des conseils d'ailleurs que je donne quand j'explique comment mieux gérer, se satisfaire de ses motivations et mieux gérer ses poisons. C'est l'un des conseils que je donne.
En fait, c'est s'interroger sur la finalité de l'acte qu'on pose au lieu de se focaliser simplement sur l'acte en lui-même, s'il est rébarbatif, s'il est répétitif.
En fait, c'est positiver. C'est apprendre à positiver un petit peu les choses. Dans tout événement, alors pas toujours parce qu'il y a des événements dramatiques, vous pourrez pas positiver, mais il y a beaucoup d'événements que vous pouvez positiver. En fait, il faut toujours se poser la question, s'entraîner à positiver les événements parce que vous pouvez trouver et c'est le cas par exemple du casseur de pierre. La personne, elle a positivé, alors elle l'a fait spontanément, mais on peut soi-même positiver. Par exemple, imaginez par exemple vous êtes invité à un mariage et vous apercevez que vous commencez à rager contre la maîtresse de maison parce qu'elle vous a placé dans une table où vous connaissez personne alors que vos amis ils sont tous à une table plus loin. Ça peut vous gâcher, ou si vous la prenez même une semaine avant le mariage, ça peut vous gâcher votre semaine, vous ragez, etc. Et finalement si vous dites finalement, c'est peut-être pas mal d'être à une table où je rencontre d'autres personnes.
De découvrir des
gens, ça va être même plus intéressant parce que je vais pouvoir apprendre des choses. Et bien finalement, vous avez positivé et vous avez du plaisir à faire cette action.
Donc, c'est voir le verre à moitié plein à chaque fois pour.
Exactement.
Pour finalement mieux vivre, c'est être mieux dans son corps, mieux dans sa tête aussi.
Exactement, tout à fait.
Et alors, pour en revenir à votre profession, qui est de travailler en conseil en recrutement, en quoi l'analyse que vous formulez vous est-elle ou est-elle opérante dans votre travail, dans votre vie professionnelle?
En fait, dans le métier de recrutement, elle est assez claire. Vous avez besoin de connaître les motivations des personnes avec qui vous travaillez. Dans l'entreprise, le fait de connaître les motivations d'une personne, ça vous aide à mieux comprendre ses besoins, ce dont elle a envie, ce qu'elle veut, ce qui va la réaliser, et aussi à connaître aussi les motivations de l'entreprise dans laquelle elle va travailler. Si vous arrivez à mettre les deux en harmonie, vous arrivez à avoir des candidats qui vont être heureux de travailler et qui vont être productifs. Tout le monde sait aujourd'hui que la productivité est liée justement au plaisir de travailler.
Et donc ce que vous conseillez aussi aux candidats, c'est en amont de leurs entretiens de bien les identifier, de bien identifier leurs motivations pour ensuite être plus performants, pour être plus clairs dans leur entretien d'embauche éventuellement.
Je le conseille pas qu'aux candidats, je le conseille à tout le monde de bien identifier ses motivations de vie parce que c'est important. temps justement de lister un petit peu ce qu'on finalement de regarder par exemple dans sa semaine qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, demain, toute sa semaine, et en même temps d'associer à chacune de ses actions les motivations qu'on a satisfaites et si ça correspond vraiment à des motivations. Si vous faites des choses toute votre semaine qui vous plaisent pas et vous êtes malheureux, bah vous allez vite, en faisant cette liste, vous allez vite voir qu'il y a quelque chose à changer.
C'est vraiment bien de faire ces listes concrètement, d'écrire, de formuler sur du papier ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qui nous motive, etc.
Apprendre à se connaître. Voilà, et maintenant pour répondre à ce que vous dites sur l'entreprise, puisque l'entreprise par exemple, il y a un exemple flagrant aujourd'hui d'entreprises, les entreprises modernes comme Google, Apple, etc., qui ont changé justement leur culture d'entreprise, qui ont créé des cultures d'entreprise spécifiques pour répondre aux motivations des candidats. Par exemple, Google, ils ont créé une table de 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, quand vous les analysez, je les ai d'ailleurs notés sur mon petit papier parce que je les connais pas tous par cœur, vous avez des commandements qui sont liés aux motivations. Par exemple, l'un des commandements, c'est nous ne voulons travailler qu'avec les meilleurs. Ben, c'est typiquement, on a la motivation de considération. Si vous êtes chez Google, vous êtes dans les meilleurs, donc c'est une motivation de considération. Et en même temps, c'est une motivation d'appartenance aussi. Parce que vous êtes dans les meilleurs,
c'est-à-dire de faire partie de l'élite.
De l'élite Google, c'est les appartenances. L'un des autres commandements de Google, c'est travailler chez Google, c'est sympa. Travailler chez Google, c'est sympa, ça veut dire que Google s'occupe de vous, donc c'est de la considération. D'accord.
Pourtant, ça rajoute pas un peu de pression sur ces personnes?
Bien sûr, c'est une manière de rajouter de la pression, de les motiver. Mais en fait, en répondant à leur motivation, en répondant à ces motivations, vous créez une unité qui va souder les équipes et les rendre et satisfaire finalement ces motivations. Vous avez par exemple Google dit l'innovation technologique dans, je crois que c'est le troisième commandement ou je sais pas combien, et notre sang. Ça veut dire qu'on est finalement de la même famille. Le sang, on a le même sang avec une famille. Donc encore une fois, on répond à la motivation d'appartenance. Vous voyez, donc les entreprises modernes, elles ont compris l'importance de répondre à ces motivations des candidats. Alors, ces motivations, c'est pas que seulement des termes, ça peut être aussi des actes. Chez Google ou chez Apple ou chez Facebook, vous avez aussi des endroits très cosy, vous avez des couleurs qui sont sympas, vous avez je crois que c'est Facebook qui offre les repas gratuits, les petits déjeuners gratuits, etc. Et ben c'est une manière de s'occuper, de considérer les gens, c'est une manière de leur apporter. Ils payent bien aussi, donc c'est aussi la motivation dans les premières motivations de conservation.
Oui, on vous donne
de l'argent.
Voilà. Dans ce monde-là.
Voilà, mais ça aide, mais c'est pas que ça. Si vous voulez, une entreprise qui ne croit qu'en donnant que de l'argent, ça va garder les candidats, c'est pas vrai, parce que les gens ont besoin. On vit pas que pour l'argent. C'est pas l'argent, c'est important, mais c'est pas que ça le bonheur. Entreprises vont essayer de répondre à ces motivations finalement et elles vont donner envie aux candidats de rester. Inconsciemment, tout ça c'est de l'inconscient, mais inconsciemment vous allez ressentir ça et vous allez être bien et vous allez avoir envie de continuer à travailler dans cette entreprise.
Écoutez, Yves Vasseline, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre livre « La course incessante des êtres humains » sur beaucoup d'angles différents, angle personnel, l'angle de l'entreprise, et puis avec vos conseils pratiques que vous avez donnés, et puis toutes vos anecdotes qui nous ont permis d'illustrer votre propos. Un grand merci, et puis à bientôt.
Merci Yves Vasseline.
Merci beaucoup Éléonore, merci Vincent.
7h, 9h, tous les vendredis, la dernière ligne droite.
Et on retrouve maintenant...